RFI, grand reportage, Patrick Adam.
Bonjour, c'est le supplément du samedi. On parle de pellets, ce sont des petites billes de plastique dont se sert l'industrie pour fabriquer toutes sortes de choses. Quand une cargaison s'échappe d'un navire et se déverse sur la côte, c'est une pollution compliquée à digérer et qui, au-delà du nettoyage laborieux, peut remettre en cause tout un écosystème de bord de mer. Dans un instant, nous serons en Galice. Comme toujours, 20 minutes de reportage et après on appelle Madrid. Une fois n'est pas coutume, je vous propose de réécouter un sujet que les plus fidèles d'entre vous ont peut-être déjà entendu dans ce rendez-vous. La perruque, son industrie florissante, ses modèles toujours plus haut de gamme, des perruques qui s'arrachent jusque sur la tête des femmes qui les portent. Le reportage de Théa Olivier au Sénégal, c'est à suivre en deuxième partie d'émission.
C'est un travail plutôt difficile, c'est frustrant. Dans ces plages, le sable est très blanc et la majorité des pellets sont blancs aussi, peut-être un peu orangés. C'est très facile de les confondre avec des bouts de quartz, avec des coquillages. Ils se mêlent dans les algues, voilà pourquoi c'est frustrant. Le meilleur allié, c'est le seau d'eau, car si c'est du plastique, ça flotte, pas le reste. Ensuite, on peut l'extraire, le sécher et le jeter à la poubelle.
On parle dans ce cas de marée blanche. Ce 8 décembre 2023, une tempête secoue le Tokonao, porte-container battant pavillon libérien au large du Portugal. Un container tombe à l'eau, se perd en mer et se brise. Il libère un millier de sacs de pellets, des microbilles de plastique qui vont se répandre, portées par les courants, au gré des plages de Galice. Dans ce nord-ouest de l'Espagne, c'est la panique. La région vit de la pêche et tout l'écosystème est menacé. Des semaines plus tard, la marée blanche continue d'inquiéter. Galice, avec la crise des pellets, le monde de la mer tire la sonnette d'alarme. C'est un grand reportage de François Musso.
Nous sommes sur la plage de Carnota, une des plus grandes et aussi une des plus majestueuses de Galice. Ce samedi matin, environ 2 mois après l'accident du Tokonao, ils sont une quinzaine de volontaires de l'organisation écologiste Ecologistas en Acción à ramasser avec un soin infime ces microbilles de plastique parsemées. Marcos est universitaire à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il s'est porté volontaire pour ce ramassage.
Si, travajamos con...
Comme tu vois, on travaille avec la brosse d'un balai pour enlever la couche superficielle et trouver le déchet. Le problème, c'est que souvent, les pellets se mêlent aux algues. Il faut faire attention. D'autant qu'on nous a expliqué de laisser sur place les algues qui font partie de l'écosystème. Dans cette zone, il n'y a pas tant de pellets que ça. Mais il y a plein d'ordures, d'autres types de plastique aussi. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'il y ait plein de pellets différents. Quand on nous a montré le déversement à la télévision, il n'était que d'une sorte. Or là, il y en a d'autres formes et d'autres couleurs. C'est donc probable, nous a-t-on expliqué, qu'il y ait eu bien d'autres déversements, moins importants ou plus lointains.
C'est probable qu'il y ait eu d'autres vertidos, plus petits ou plus lejos.
Accroupi face à la mer en quête de ces minuscules granulés, très difficiles à extraire, lui et les autres portent des gants afin de se prémunir contre une possible contamination. À la direction de ce ramassage méticuleux, Cristobal Lopez, un des porte-parole d'Ecologistas en Acción.
L'ennui avec ces nanoplastiques est qu'ils peuvent s'introduire dans les planctons et donc dans la chaîne alimentaire. Et cela, bien sûr, termine sur notre table. Il faut donc décontaminer au plus vite afin que les gens soient rassurés et continuent à acheter des poissons et des fruits de mer de Galice. Ce que nous avons en mer, c'est une sorte de soupe très diffuse. C'est une contamination très invisible, claire, mais qui n'est pas pour autant inoffensive pour l'environnement.
Quasi invisibles, très disséminés, ces pellets demeurent donc une menace. Dans les premières semaines, on les ramassait par seaux entiers. Ces billes blanchissaient les plages et les rochers, d'où le nom de marée blanche. Ce sont d'ailleurs les jeunes qui ont réagi le mieux et le plus rapidement. Luis Pérez Barral a 32 ans. Il est le maire nationaliste de Ribeira, une commune de 27 000 habitants, très touchée par cette pollution de plastique.
Paradoxalement,
ce sont les jeunes gens qui ont donné le signal d'alarme, qui ont mobilisé les volontaires via les réseaux sociaux. Et à mon avis, c'est dû au fait que nous, les jeunes, sommes très conscients de notre environnement, du changement climatique, car c'est notre vie qui est en jeu. Nos générations vont vivre un changement climatique aux conséquences quasi insondables. Et on doit y faire face. Et je crois qu'on ne peut pas normaliser le fait que nos côtes se contaminent avec des millions de plastiques et de microplastiques et qu'on ne fasse rien.
La marée blanche des pellets a été un choc. Le gouvernement central a même effectué 12 vols et une cinquantaine d'observations satellites pour les récupérer en mer. En vain. Aujourd'hui, les pellets sont bien moins visibles et la vie continue. Et pourtant, le monde de la mer, qui structure une région tout entière, ne s'en est pas remis. Tout le monde y voit un sérieux avertissement. Ana Freira Dias est biologiste et océanographe à l'université de Vigo. Elle a aussi beaucoup participé à des ramassages de pellets.
Moi, je crois que c'est une sérieuse mise en garde concernant notre environnement. C'est une mise en garde concernant notre système de marchandises. Une mise en garde qui nous oblige à considérer cet épisode comme un déversement toxique et dangereux. Une mise en garde qui a trait à notre relation avec le plastique. Une mise en garde aussi qui doit nous pousser à actualiser notre législation en la matière. Cela affecte les animaux, car ils peuvent ingérer ces nanoplastiques et se retrouver avec les branchies asphyxiées. Mais le problème à long terme, c'est que nous allons continuer à observer cette décomposition. Une décomposition sur laquelle il faudra bien que nous nous penchions.
C'est un problème que nous avons, sur lequel il faut travailler.
La crise de ces microplastiques est un détonateur, une sorte de goutte d'eau qui fait déborder un vase déjà plein, celui de la contamination. Et tout particulièrement la contamination des rias, ces profonds estuaires qui découpent le littoral de Galice parmi les plus prolifiques au monde en fruits de mer, en moules, en couteaux ou en coques. Noia est une de ces charmantes communes de cette côte riche en fruits de mer, le marisco, et qui en vit. Liliana Solis, biologiste, est la porte-parole de la principale confrérie de pêche.
La Galice se caractérise par sa pêche traditionnelle et dans un estuaire comme le nôtre, cela concerne tout spécialement la conchiculture, les fruits de mer. Au cours de ces dernières années, on a vu une chute de production de ce secteur et tout particulièrement l'an dernier, après les inondations de l'hiver 2022-2023. Il y a des facteurs environnementaux qui pèsent comme celui de l'impact des centrales électriques. Les coques et les couteaux sont des mollusques d'estuaire qui, il faut le reconnaître, meurent parfois en masse en raison des pluies abondantes en Galice. Mais il n'y a aucun contrôle exercé sur les centrales hydroélectriques qui sont situées en amont des estuaires et qui perturbent tout l'écosystème.
Les pêcheurs qui travaillent dans l'estuaire de Noia ne le savent que trop bien. L'an dernier, la production a chuté si violemment que les autorités de régulation, en accord avec la confrérie, ont décidé de stopper l'activité, afin que la faune marine se régénère. Si bien que, hormis 8 jours en octobre, les 1200 pêcheurs de la confrérie de Noia et leurs 550 bateaux sont à quai depuis début 2023, ce qui n'était jamais arrivé. Liliana Solis s'en inquiète.
C'est un secteur qui connaît de grandes difficultés depuis des années. Perte d'habitat, changement climatique, problèmes de commercialisation. Et ces derniers temps, on a vu s'amplifier le phénomène des déchets marins. C'est une préoccupation environnementale pour laquelle on dépense beaucoup d'argent. Il y a des politiques qui sont menées en ce sens, mais il reste beaucoup à faire. Car en vérité, le littoral ne peut pas supporter plus de résidus. Et la grande inquiétude est que cela impacte négativement les ressources marines pour la pêche.
Cette inquiétude, on la retrouve partout, tout au long de ce littoral déchiqueté, de la Corogne au nord à Vigo au sud et au gré des quatre grands estuaires entre les deux parmi les plus riches du monde en mollusques. À une cinquantaine de kilomètres de là, il y a la commune de Riancho, 11 000 habitants dans l'estuaire d'Arusa, connu pour ses moules. On est avec Dolores Gomez, 46 ans, alias Loli pour tout le monde, dans son bateau de pêche.
En plus de tous les maux dont nous souffrons, les pelets sont un mal supplémentaire. Ce qu'ils révèlent est que nous n'étions pas préparés comme on le faisait face à un tel rejet en mer. Je me souviens de cet homme, au tout début du déversement des pelets, qui avait rempli des sacs entiers de ces plastiques. Il avait appelé partout, mais personne ne l'a pris au sérieux. On n'a pas accordé au problème l'importance qu'il présente. Et ce problème s'ajoute à la contamination, au changement climatique, aux déchets et à la faible productivité. De mon côté, je vois que les gens peuvent de moins en moins vivre de la côte. La pêche est chaque fois moins abondante. Tu gagnes presque rien. Tout cela va avoir un grand effet sur ce que signifie le fait de vivre ici.
A influir mucho en lo que es vivir aquí.
À ses côtés, dans le bar du port de Riancho, au Taberneiro, Celia, 32 ans, aussi une force de la nature, parle d'un travail précarisé pour ces marisqueras, ces femmes qui ramassent les fruits de mer dans les estuaires, à pied ou en bateau, alors que traditionnellement, les hommes partent plutôt en haute mer. Comme Loli, Celia Herbon milite dans le collectif Mujeres Salgadas, littéralement « femmes salées », qui se bat contre le machisme régnant dans ce secteur.
Moi, je suis une passionnée de la pêche depuis que je suis née. J'ai été élevée dans un bateau, sur les plateformes de moules, dans la pêche de fruits de mer à pied. À 6 ans déjà, je savais parfaitement ramasser les coques. J'ai su très vite réparer les filets, tout. Moi, sans la mer, je ne pourrais pas vivre. C'est tout ce que je peux dire. Actuellement, ma spécialité, c'est la pêche à la moule. Ces dernières années, ça a été vraiment difficile. On est endetté. Il faut jouer avec les prêts et les crédits à la banque. Ça a été de mauvaises années. Je vis à peine de mon entreprise. J'espère que les temps à venir seront meilleurs.
Cette crainte, cette peur de disparaître, elle existe un peu partout dans les bourgades de ces rias galiciennes, de ces estuaires, dans les ports, dans les hameaux, les moindres recoins. Il y a le sentiment que quelque chose de lointain et d'ancestral se délite et perd de sa force. Au final, marée blanche et perspective noire, c'est ce que les pelettes ont mis en lumière. Revenons à Noia. Près de l'église principale, il y a un cimetière galicien typique avec ses croix en granit, un peu comme en Irlande. Ce jour, Mercedes, bientôt 80 ans, est venue se recueillir et changer les plantes de la tombe de ses parents.
La vie de mes parents, c'était la pêche aux fruits de mer, celle de mes grands-parents aussi. Pour moi, cela n'a pas été complètement le cas. Mais bon, quand j'étais une fillette, j'allais pêcher, j'y allais pieds nus, sans combinaison, ni rien. Hein. J'allais à Tesla, à la plage de Noia, en pleine ria. Là, il y a une étendue de sable très vaste, où les gens ont toujours ramassé des coques avant de les amener à la halle, de les mettre aux enchères, de les vendre pour être payés le lendemain. Moi, ensuite, j'avais travaillé pour une entreprise de bois. J'y suis restée 17 ans. Ensuite, je me suis séparée et j'ai dû revenir au Marisco, mais cette fois-ci en tant que surveillante.
Mercedes a vu passer une bonne partie du siècle dernier et de celui-ci. Elle a un fichu noir, une mantille, l'ensemble de ses vêtements et son aspect sont traditionnels. Mais elle a bien observé l'évolution, les changements. Et lorsqu'elle se souvient de sa jeunesse, lorsqu'elle allait pêcher avec son père, sa mère et ses frères, elle ne reconnaît plus grand-chose.
Avant, il y avait beaucoup plus de mariscos qu'aujourd'hui, parce qu'on n'était pas si nombreux. On était des familles de 3 ou 4 frères avec des parents qui travaillent en mer. Désormais, je vois des avocats au chômage qui, s'il le faut, vont à la pêche aux fruits de mer, car il faut bien manger quelque chose. Je connais des jeunes bardés de diplômes qui vont ramasser des fruits de mer. Eh oui, car ils n'ont pas de travail non plus. C'est comme les avocats qui doivent émigrer en Suisse, en Angleterre ou en Allemagne. Eh bien ceux-là, au lieu d'émigrer, se rendent à une confrérie de pêche, obtiennent une licence et vont pêcher. Et on y gagne de l'argent.
Mercedes connaît bien ce monde. Elle connaît bien aussi les mollusques, tous les fruits de mer. Elle sait aussi tout le mal que peuvent provoquer des inondations depuis les rivières qui se jettent dans les estuaires.
El marisco... La riada, l'agua dulce, los mata.
S'il y a trop d'eau douce, les fruits de mer, ça les tue. Et le mollusque qui vient de naître, il n'a pas eu le temps de se développer. Selon mon point de vue, je ne suis pas une experte, mais il y a moins de gens qui pêchent, car il y a moins de fruits de mer. Avant, je voyais des caisses avec 25 kilos de coque, mais aujourd'hui, ce sont 7 mois de pêche intensive et le fruit de mer ne récupère pas.
Son 7 ou 8 meses, luego no será recuperado la ría.
Moi, aujourd'hui, je suis curieuse de voir comment tout cela va évoluer, comment chacun parvient à se démener et à trouver une solution, car l'avenir n'est pas rose. Les mollusques tout juste nés ne peuvent grandir et le banc de pêche ne donne plus grand-chose. Pour l'instant, les mariscadores reçoivent des aides, certains pour une durée de 5 ans, d'autres de 10 ans, mais c'est un désastre. Pour Noia, c'est un désastre. Pour le commerce, pour tout. De quoi va-t-on vivre si on a toujours vécu de cela ?
Les craintes pour l'avenir, que le déversement des pellets a ravivé et renforcé, elles ne sont pas seulement le fait de ceux qui pêchent dans les rias, dans les estuaires. Ceux qui lancent leurs filets un peu plus loin aussi sont inquiets. À Porto do Son, il y a Rogelio Santos Queiroga, 46 ans, qui pêche tous les jours avec son frère à bord du Milena, un bateau qui a ses amarres dans ce port où il est né, comme ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Et la situation le désole.
Comment on a pu en arriver à ce qu'il y ait une telle quantité de plastique dans nos mers et nos océans? Comment a-t-on pu en arriver là? Partout j'entends, ce n'est pas grave. Mais non, on arrive à un moment où on a extrait une bonne partie des ressources des océans. Il y a plein d'espèces au bord de l'extinction ou très limitées. On est à un point de bascule dans lequel, ou bien on est capable de repenser la pêche et notre façon de traiter la mer et les rivières, ou bien on va vraiment connaître une situation très difficile. Car on peut se passer de plein de choses, on peut se passer des voitures, des portables, mais manger, cela, on ne peut pas s'en passer. C'est la chose principale.
Rogelio porte une casquette, il porte un bouc bien taillé. Avec ses épaules très musclées, son regard déterminé et concentré, il donne l'impression d'être un roc. À l'entendre, on sent aussi que le sujet le touche au plus profond.
Alors je suis inquiet. J'espère que cette crise aura servi à quelque chose. J'espère qu'en retirant les pellets, les gens se sont rendus compte qu'il y avait là plus de plastique de tout type que de pellets. Et des plastiques, il y en a de tout type, des bouteilles, des emballages, etc. Et pas seulement ici. On en trouve sur toutes les plages d'Espagne et d'Europe. Il y en a jusque dans les fossés de Madrid, de l'intérieur du pays, partout. Que fait-on? C'est notre chez nous, là où on mange, où on respire, où on joue, où on se baigne.
Que es nuestro hogar, es donde comemos, donde respiramos, donde jugamos, donde nos bañamos. No es solo por la pesca.
Je ne parle pas seulement pour la pêche. Dans ma zone, plein de gens pratiquent la pêche sous-marine comme sport, font du surf. Chaque été, on reçoit des milliers de visiteurs qui viennent déguster nos produits de la pêche. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Alors, cela m'enrage quand j'entends des pêcheurs dire « Non, ce ne sont que 4 pellets, il y en a toujours eu, il y a toujours eu des déchets marins. » Comment? Quel genre de pêcheur es-tu? Comment peux-tu justifier cela?
Mais quelle classe de pêcheur es-tu? Comment peux-tu justifier cela?
Rogelio Santos Queiroga fait partie de ces pêcheurs à la fois engagés et conscients de tout ce qui est en jeu. Il est fatigué de la mauvaise réputation des siens, ces pêcheurs qui agissent au détriment de la mer et de ses ressources. Lui affirme relâcher souvent en mer un homard qui aurait pu lui rapporter entre 150 et 200 euros parce qu'il n'est pas encore de taille adulte. Il a créé une association de protection de la mer et, sur les réseaux sociaux, il publie des vidéos où il informe sur l'état de la mer, des espèces et sur l'évolution de la pêche. Une attitude pédagogique qui lui a valu le surnom de « influencer de la mer ».
Des décennies d'installation de tout à l'égout dans toute bourgade de pêche qui ont assaini ces villages, les maisons. Mais en échange, cela a rempli la mer de merde. Il y a 20 ans, c'était organique, c'était les toilettes, la nourriture, etc. Mais ces 20 dernières années, il faut ajouter un record de produits chimiques de tout genre, des rejets de l'industrie qui ne fait pas son travail et qui va aussi vers la mer. Sans parler du boom des herbicides et pesticides de dernière génération pour les champs de maïs ou de pommes de terre. En Galice, vu la déclivité du littoral, quand il pleut, tout se jette dans la mer.
Les fruits de mer et pas seulement, aussi les poissons les plus divers que Rogelio recueille dans ses filets, il voit bien qu'il y en a de moins en moins. Et aussi pour une raison qu'en Galice, on préfère taire, la surexploitation.
Moi, la mer m'a donné à manger, elle m'a élevé. Ma vie personnelle, ma maison, mon style de vie et celui de ma famille et aussi ma vie au sens collectif se sont améliorés au cours des années grâce à ce que la mer nous a donné.
Ha ido mejorando a través de los años en base a lo que el mar nos ha dado.
Bonjour François Musso.
Bonjour.
Correspondant de RFI à Madrid, vous rentrez de Galice où vous avez signé ce reportage sur la pollution plastique avec ces fameux pellets. En arrivant en Galice, sur ces plages polluées, François, qu'est-ce qui vous a frappé en premier ?
Eh bien, moi, ce qui m'a le plus frappé, en fait, c'est de voir l'incroyable mobilisation des gens. Et la disproportion qu'il y avait entre, au moment où je suis arrivé, la marée blanche, comme il appelle là-bas, en fait, c'est marée de pellets parce que c'est des choses quasiment invisibles. Donc, il restait plus grand-chose par rapport à ce qu'il y avait eu dans les premières semaines. Moi, j'étais frappé de voir que, en dépit de la faible présence de ces pellets, les gens étaient extrêmement remontés, et je dirais spécialement les jeunes. J'ai assisté à plusieurs ramassages de pellets par des jeunes volontaires qui venaient de Saint-Jacques-de-Compostelle, de La Corogne, de Vigo, des jeunes pour qui on avait touché à quelque chose qui était à eux. Et c'est ça qui m'a le plus marqué.
On a touché à leur littoral et ça éveillait chez eux de mauvais souvenirs, François.
Exactement, exactement. Parce qu'ici, il y a eu, il y a 22 ans, une catastrophe naturelle dont on avait beaucoup parlé à l'époque, qu'on appelle ici le Prestige. Ils lui disent comme ça, en fait, c'est le Prestige. C'était un navire très important pétrolier qui avait largué ce qu'on appelle ici le chapapoté, c'est-à-dire du fuel sur les côtes de Galice qui avait complètement noirci ce littoral. Ces jeunes-là, à l'époque, ils étaient en culotte courte ou ils n'étaient même pas nés, mais ça a été transmis de leurs parents jusqu'à eux. Et c'est un vrai traumatisme en Galice que cette contamination des côtes. Et donc, avec cette arrivée des pellets, automatiquement, le trauma est revenu et ils se sont dit tout de suite, encore une fois, notre littoral est attaqué et contaminé par des agents néfastes. Et c'est ce qui explique qu'il y a eu cette mobilisation et tout de suite ce réflexe.
Est-ce que révèle également votre reportage, François, au-delà de cette marée blanche, c'est l'inquiétude de toute une filière, celle qui vit de la pêche, celle qui vit des coquillages et qui manifestement se sent de plus en plus fragilisée?
Exactement, c'est ce que j'ai compris en fait très très rapidement, que cette marée blanche des pellets dont moi j'ai vu les derniers effets était pour eux en fait une sorte de déclic. Ils ont vu leur écosystème, ils ont vu la pêche, ils ont vu leur secteur. En fait, ils ont vu ce qui leur donne leur gagne-pain, le fait que cette côte est productive, donne des richesses et fait vivre des milliers de gens. Et donc, ils ont eu très très peur immédiatement que cette contamination allait s'ajouter à une série de contaminations qui rend ce littoral et cette production de mollusques donc, et de poissons quasiment réduite à zéro.
François, à l'issue de votre reportage, si je vous demandais quelle image ou quel personnage vous gardez en mémoire ?
Alors moi, j'ai une image et un personnage. J'ai l'idée toujours d'une mère qui rentre dans la terre. On a vraiment l'impression qu'en fait, la mer et la terre sont imbriquées, inextricables à un point extrême. Et c'est cette image que j'ai. Donc l'image que j'ai, moi, c'est une femme que j'ai vue un jour qui allait rechercher des mollusques comme ça en fin de journée, qui n'en avait pas trouvé et qui était très inquiète de voir que ce qu'elle avait toujours trouvé jusqu'ici n'était plus là. Et c'est cette image d'inquiétude qui me reste en mémoire.
Merci, François Musso.
Merci.
Grand reportage, le supplément du samedi, deuxième partie sur RFI.
Avoir un salon de qui vend des perruques, c'est, moi je le considère comme si on a une bijouterie en fait. Donc la sécurité c'est super super important. Tu vois des salons qui se font cambrioler, où on ramasse toutes leurs perruques et t'as peur en fait. Tu te dis ok, peut-être ça peut être moi et qu'est-ce que je vais faire si on vient voler toutes les perruques des clients. T'es obligé de les rembourser et ça coûte super cher. Donc faut sécuriser sa marchandise quoi.
Au Sénégal, des voleurs ont été arrêtés avec 91 perruques de seconde main. Ils ont été condamnés, fin septembre, à 2 ans de prison, dont 3 mois ferme. Un phénomène récurrent dans la capitale sénégalaise, alors que les perruques de cheveux naturels coûtent très cher. le marché lucratif des perruques. C'est un grand reportage de Théa Olivier.
C'est coiffé de sa toute nouvelle perruque frisée à la mode que Nogai Sidifal déambule en famille en septembre 2022 dans les ruelles animées du marché populaire de Koloban en plein Dakar. À la veille de la rentrée scolaire, elle était venue acheter des fournitures et des habits pour ses enfants quand tout d'un coup...
Je sens plus la perruque, quelqu'un l'a tirée. Et quand je me suis retournée, je n'ai vu personne. Donc j'ai crié « ma perruque ». Monsieur qui me devançait un peu s'est retourné, m'a demandé « qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai dit que quelqu'un a pris ma perruque.
Valeur des mèches de cheveux naturels volées à l'arraché, 300 000 francs CFA, soit 450 euros. Nogai Sidifal ne peut pas se permettre de payer régulièrement des perruques de cette valeur-là.
Puisque je n'avais pas déclaré à monsieur la valeur, donc du coup... Je lui dis que c'était semi-naturel, donc pas la peine d'aller à la police, de faire une déclaration et autre. Donc je me suis tue et j'ai pris mon mal en patience. C'était celle qui ne devait pas partir, mais malheureusement, elle est partie. Ouais.
Désormais, il ne reste à Nogai Sidifal que deux perruques de cheveux naturels, l'une qu'elle a payée 150 000 francs CFA et l'autre 200 000 francs CFA. Le reste du temps, elle porte des perruques semi-naturelles qui coûtent moins cher.
Avec ma petite sœur et mes belles sœurs, on achète des semi-ondulés, des semi-qualités. On se les partage parce que c'est la même famille, on veut toujours être belle et voilà. Donc si on met au bout de 2 à 3 fois, on peut passer au salon de coiffure pour nettoyage et remettre ça à neuf.
En entrant dans le salon de coiffure Enora Beauty, on tombe sur des centaines de perruques bouclées en train de sécher sur un drap, même le sol. À côté, l'une des employées lave des mèches de cheveux dans une grande bassine. Arène Rouma, la patronne, a lancé une promotion pour entretenir les perruques de ses clientes et leur redonner une nouvelle vie.
L'entretien commence par le lavage. Donc tu vois là, on lave au shampoing. Après là-bas, il y a le seau où on met le démêlant. Donc on laisse les cheveux dans le démêlant pour que ça absorbe bien le démêlant, que ça rend le cheveu super doux. Après, elle laisse sécher et nous, on sèche à l'air libre en fait. On ne sèche pas au séchoir ni rien. Et là, c'est l'atelier coiffure. Donc les perruques sont soit lissées, soit bouclées. Ou par exemple pour les friser, elles définissent les boucles et c'est pour ça que les perruques sont déjà prêtes là.
Arène Rouma explique pourquoi l'entretien est essentiel pour garder longtemps une perruque.
Parce qu'il y a la pollution, il y a la poussière, il y a l'humidité, la chaleur, qui fait que ça attrape le cheveu en fait. Et donc il faut le laver, il faut faire un soin dessus. Et donc chaque 2-3 semaines, on dit à la cliente de revenir pour faire les soins. Et donc c'est le soin là qui va déterminer la longévité en fait de la perruque. En même temps, nous, on vend des produits qui vont avec l'entretien de ces perruques-là. Par exemple, définir les boucles, mettre de la mousse, tout ça. On vend ça en même temps pour qu'elle aussi, chez elle, elle puisse entretenir sa perruque normale.
Ami, tu vois, la mèche, elle vient comme ça.
En 2017, Arène Rouma a ouvert ce salon de coiffure spécialisé dans les cheveux naturels importés du Vietnam. Au prix de 200 000 francs CFA le kilo de mèche, soit 300 euros, la femme d'affaires en fait venir entre 10 et 30 chaque mois pour confectionner ses perruques sur mesure.
C'est des cheveux qui coûtent excessivement cher. Bon, la moins chère des perruques raw hair, genre si c'est une coupe carrée par exemple, c'est entre 165 000, ça peut aller jusqu'à 300 000, 400 000, tu vois. Donc c'est très cher parce que c'est des cheveux qui peuvent te durer pendant... Ça peut aller jusqu'à 10 ans en fait, avec l'entretien qu'il faut. On a des clients qui ont leur perruque depuis 2016, 2017, 5, 6 ans et qui les ramènent, qu'on fasse les soins et tout et qui les portent jusqu'à présent. Donc c'est un investissement on va dire. Nous ce qu'on fait c'est qu'on personnalise toutes les perruques. Donc on confectionne les perruques, on les customise, on les rend un peu plus naturelles. Quand la cliente vient, on par rapport à la forme de sa tête, confectionne la perruque pour que ça soit sa perruque à elle en fait. Personne d'autre ne peut porter sa perruque en fait. C'est pas des confections de masse qu'on fait, non. C'est ça qui explique le prix.
Dans son salon, Aren Rouma coiffe et tresse aussi les cheveux des femmes avec des rajouts de mèches synthétiques. Une pratique tellement courante que ses cheveux sont fabriqués sur place, à Dakar, ce qui les rend davantage accessibles au portefeuille des clientes sénégalaises. L'usine Mèche Darling est barricadée derrière de grands murs dans un quartier industriel de Dakar. Ici, des dizaines de machines chauffent des fibres synthétiques de toutes les couleurs venues du Japon qui imitent le cheveu naturel.
Donc là, c'est le département de mèche. C'est le département qui marche le plus, quoi.
Nabil Chaito est le responsable commercial de l'entreprise.
C'est ça, la machine qui donne les grains. Après cette étape, il y a le peignage, on peigne là-bas, comme vous êtes en train de voir les gars comment ils sont en train de faire. Là-bas au fond, là où il y a le monsieur en rouge, là-bas il y a la découpe, c'est là-bas où on coupe la mèche selon la longueur souhaitée. Après ça, il y a la peigne, après la peigne, il y a la balance, on pèse chaque produit selon son poids. Après ça, il y a la dernière étape, là-bas les femmes qui sont en train de tresser la mèche un peu. Comme ici par exemple, celle qui est en rouge. Après ça, il y a l'emballage et après on met dans les cartons. Voilà.
Mèche super magique, locks, kinky twist, bloom, curly, l'entreprise propose maintenant des centaines de modèles. Chaque mois, entre 2 et 4 containers de 15 tonnes de fibres sont importés pour fabriquer les plus de 200 000 pièces écoulées chaque mois sur le marché sénégalais et à l'international. Hussein Saleh, directeur administratif et financier de la société, était déjà là à la création de l'usine Mèche Darling en 1985.
On importait au Sénégal tout ce qui n'était pas fabriqué au Sénégal, dont les cheveux. Et c'est comme ça qu'on a vu que les mèches de cheveux étaient très intéressantes sur le marché. On est parti en Corée, on a appris le travail et on a créé cette société. Parce qu'en général, toutes les femmes avaient besoin de ça. Et la plupart des femmes, même je vais dire 90 à 95% des femmes se tressent. Donc c'était un marché qui était bénéfique pour la société. Quand on a commencé, on était 30 employés. On avait un terrain qui faisait 2000 mètres carrés. Maintenant, on est aux environs de 500 employés avec 13 000 mètres carrés. Bon, ce n'est pas les 13 000 mètres carrés qu'on a utilisés, mais on utilise à peu près 5-6 000 mètres carrés. On a l'intention de se développer encore plus. Pourquoi ? Parce que tous les pays africains limitrophes au Sénégal, ils achètent au Sénégal. En fait, on essaie d'exporter là où il n'y a pas de fabrication de mèches. Par exemple, on ne peut pas aller à Abidjan parce qu'il y a déjà une usine là-bas. On ne peut pas aller à Lagos parce qu'il y a des usines là-bas. Mais je vous donne l'exemple du Mali, de la Guinée-Bissau, de Guinée-Conakry. Il n'y a pas de mèche là-bas, alors les gens viennent acheter chez nous.
Les perruques, tissages et greffages résistent à la mode nappy qui vise à réhabiliter le cheveu africain naturel. Selon un rapport sorti en 2021 par Cetelma, média spécialisé sur la beauté et les cosmétiques en Afrique, les femmes entre 35 et 45 ans issues de classe moyenne supérieure dépensent au Sénégal en moyenne 150 000 francs CFA, soit 230 euros tous les 2 ou 3 mois dans des perruques. Et les femmes des classes moins aisées dépensent tout de même entre 30 000 et 50 000 francs CFA, soit entre 45 et 76 euros. Un budget lourd pour des femmes qui gagnent souvent moins de 100 000 francs CFA par mois. Selon Aminata Thior, fondatrice de Cetelma, cette forte utilisation des perruques et mèches artificielles est bien visible au Sénégal.
Quand on regarde aujourd'hui les réseaux sociaux, observez la tête des femmes sénégalaises. On voit peut-être sur 10 femmes, les 8 auront des perruques. Ça, c'est un premier constat visible sur Facebook, Instagram. Il faut juste regarder les photos. L'autre chose, c'est aller dans un événement à Dakar. C'est la même chose. On voit plus de femmes avec des perruques que des femmes qui ont des tresses ou leurs cheveux seuls. L'autre chose, c'est regarder le nombre de salons qui ont augmenté dans leurs prestations de services, la confection de perruques ou l'entretien de perruques. Ça a beaucoup augmenté. Et l'autre chose qui est très importante que j'ai remarqué moi ces deux dernières années, que ça soit à Dakar mais aussi dans la diaspora, c'est la tontine de perruques. La tontine, c'est quelque chose de très connu au Sénégal. À la fin du mois, normalement dans une tontine, on reçoit de l'argent. Ici, à la fin du mois, on a une perruque qui coûte une certaine somme. Et du point de vue social, c'est un déterminant. Plus la perruque est longue, qualitative, lisse, plus pour dire que vous êtes assez aisé, et plus la perruque est moins qualitative, plus on peut vous catégoriser quelque part dans l'échelle sociale. Donc c'est devenu un accessoire, pas uniquement esthétique, mais ça va au-delà.
Au Sénégal, l'importation de plumes, fleurs artificielles et cheveux est passée de 145 millions à 286 millions de francs CFA entre 2017 et 2021, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Pour l'experte Aminata Thior, plusieurs raisons expliquent l'omniprésence des perruques.
Il y a les canons, les standards de beauté occidentaux, mais il y a aussi le fait qu'il y a eu le phénomène Nappi. Ça a encouragé ou ça a favorisé le fait que les femmes veulent garder leurs cheveux seules, sauf que c'est trop compliqué. Pour encore certaines, ça leur prend du temps. Elles ne connaissent pas comment manipuler ça, elles ne connaissent pas les bons produits, elles ne connaissent pas les bons gestes. Et donc, du coup, ça pose des problèmes. Enfin, les cheveux ne poussent plus, ils sont secs. Les seules alternatives qu'on a, c'est de les tresser systématiquement tout le temps, avec des mèches, ou bien de porter des perruques. Parce que c'est la seule coiffure qui peut cacher tout ce désordre, j'ai envie de dire, qui est sous la tête. Et ça, bah, y a des conséquences. C'est l'alopécie. Sous ces perruques-là, on trouve parfois tout le devant de la tête de certaines femmes africaines, enfin, sans cheveux. Et ça, c'est un complexe. Et donc, on continue à mettre des perruques. Donc, c'est un cercle vicieux que beaucoup de femmes aujourd'hui vivent. Et la seule alternative, ce sont les perruques.
Assise en face du miroir d'un salon de coiffure, Madame Dour, chef d'entreprise, se fait justement tresser les cheveux avant d'y déposer une nouvelle perruque fraîchement achetée.
Voilà, vu que moi, de mon côté, c'est un peu compliqué pour faire les shampoings, donc j'arrive à rien faire avec ma tête, donc je suis obligée de me rendre au salon tous les 10 jours ou 15 jours pour faire des soins. Et pour chaque mois, il m'arrivait à casquer 60 ou 75 000 au salon par rapport aux différents soins et aux tresses. Par rapport aux chutes et le manque de temps, j'ai commencé, ça fait un an, à utiliser les perruques. Du point de vue économique, je pense que ça revient moins cher parce que là, ça vous empêche de passer pratiquement tous les 15 jours ou 10 jours au salon pour vous faire belle. Donc avec les perruques, vous gagnez en temps et en plus vous économisez.
Et pour s'occuper de ces précieuses perruques, Madame Dour a choisi le célèbre salon de coiffure, Latifa.
Allô ? Allô ?
Ici, des dizaines de perruques sont exposées. Toutes sont fabriquées à partir de cheveux humains qui viennent de Chine, du Vietnam ou d'Inde, pays où les mèches sont récoltées dans les temples hindous lorsque les fidèles se rasent la tête comme offrande religieuse. Un business florissant qui tourne depuis 33 ans et qui a valu à la patronne, Awan Dao, le surnom de « reine des petites têtes », ces coupes courtes dont elle a le secret.
Nous, les petites têtes, on en vend beaucoup. On en vend une dizaine par jour, ou bien plus. En période de fête, il faut compter jusqu'à 30 par jour. Une perruque petite tête varie de 60 000 à 90 000, 100 000.
Les perruques confectionnées sur place et sur mesure peuvent monter jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Tout dépend de la longueur, de la texture, de la coloration et de la densité des cheveux. Des produits qu'elle arrive à exporter en Afrique et à travers le monde grâce au numérique.
Moi, je vends plus à l'extérieur maintenant. La France numéro 1, les États-Unis numéro 2, Canada numéro 3. Et après, en Afrique, il y a Côte d'Ivoire, le Gabon, l'Afrique du Sud qui sont vraiment de très bons clients, le Mali. Et la Guinée, c'est l'export, ça, c'est 60% maintenant de mon travail ou 65%.
À l'approche des fêtes, les commandes de perruques explosent, ce qui attire les voleurs. Des mèches qu'ils revendent à prix d'or dans les marchés ou sur les réseaux sociaux. Pour rentrer dans le salon Latifa, il faut désormais sonner pour qu'une des coiffeuses vienne ouvrir la porte fermée à double tour. Car 3 ans plus tôt, des cambrioleurs sont rentrés dans la boutique. Depuis, Awan Dao gère son salon tout en jetant un œil sur les écrans de vidéosurveillance.
Donc c'est quelqu'un qui nous a suivis. Il est venu la nuit, il a défoncé les fenêtres, il a pris des perruques, il en a pris une trentaine, il a pris les ordis, il a pris des parfums. On était dans les 20 millions. C'était il y a 3 ans. Et ils sont revenus encore cette année. Ils ont retourné les caméras, ils ont défoncé les fenêtres, Mais heureusement, ils n'ont pas continué parce qu'il y avait le gardien. Maintenant, j'ai sécurisé. Chaque niveau, il y a un gardien. Ben, il y a des clientes aussi qui sortent du salon. Et puis, il y a les scooters qui leur retirent directement la perruque. Ça nous est arrivé peut-être 3 fois.
Les murs rayés noirs et blancs ornés de fleurs artificielles de la boutique Perla Air Dakar sont remplis de têtes de mannequins coiffées de perruques aux cheveux naturels de toutes les couleurs. Ici, les stigmates du cambriolage dont ils ont été victimes 1 an et demi plus tôt ont disparu. Mais le gérant Ibrahim Melchisedek s'en rappelle comme si c'était hier.
Je pense que c'était le 24 juillet 2022. Oui. C'était un dimanche, dans les alentours de 5h30 à 6h du matin. Quand les voisins sont sortis, c'est en ce moment ils ont vu que les vitres qui ont été cassées. Donc c'est en ce moment ils m'ont fait signe. Là, je me suis dépêché pour venir sur les lieux. Ah, et on a constaté le malheur. Quand on a fait les inventaires, 14 millions. Le travail de toute une vie. Ramassé en moins d'une heure. Hein. Toutes les perruques, ils n'ont rien laissé. Que ce soit dans le magasin et également dans la boutique, ils ont tout pris. Ils nous ont seulement laissé que des têtes vides.
Malgré les vidéos de caméras de surveillance et le dépôt d'une plainte à la gendarmerie, les voleurs n'ont pas pu être identifiés. Ibrahim Melchisedek et son équipe ont alors dû tout reprendre à zéro.
On a juste essayé de laisser le temps passer, se retrousser les manches, et se relancer. On a totalement réinvesti. On a été cambriolés maintenant, ça fait déjà pratiquement plus d'un an. Mais nous sommes toujours là. Donc on a engagé une société de sécurité. Donc la nuit, ils viennent sécuriser les lieux jusqu'au petit matin avant que nous arrivions. Et on a également renforcé le système de caméras, de caméras à distance avec la notification sur nos propres téléphones.
Arène Rouma du salon dakarois Enera Beauty a, elle, choisi d'installer son salon au 2e étage d'un immeuble du quartier West Foire pour éviter les risques de cambriolage. Mais cela ne lui a pas empêché de se faire voler sa perruque personnelle à l'arraché en février 2022.
C'était le jour de la Cannes quand on est allé jubiler parce que le Sénégal a gagné. Ben, j'avais porté ma toute nouvelle perruque que j'ai portée pendant une semaine juste, qui venait d'être prête. Perruque frisée avec des reflets blonds, super jolie. Ben, j'étais dans ma voiture comme ça et je me retourne. Je vois qu'on m'a arraché la perruque. Je me retourne, je ne vois plus personne parce qu'il y avait une foule en fait de gens qui attendaient, les lions qui venaient et tout. Et ouais, et apparemment, j'étais pas la seule en fait. Quand je suis venue, j'ai fait une publication sur ça. Mes followers m'ont dit, mais moi aussi, on m'a volé ma perruque, moi aussi, on m'a fait ci et tout. Et donc, il faut faire super attention par rapport à ça. Tu marches dans la rue, on t'arrache ta perruque parce que c'est des fois même mieux que t'arracher ton sac ou ton téléphone. Parce que la perruque coûte plus cher. Tu peux avoir une perruque à 400 000, on te l'arrache comme ça, non.
Synonyme de liberté capillaire, accessoire esthétique ou marqueur social, malgré les risques de vol, la perruque reste un incontournable de la garde-robe des femmes sénégalaises.
Et maintenant les coulisses de ce reportage. Bonjour Théa.
Bonjour Patrick.
Vous êtes l'une de nos correspondantes à Dakar. Pour ce reportage, vous vous êtes donc rendue dans une usine de fabrication de mèches de cheveux synthétiques à Dakar. Et si j'ai bien compris, on n'y rentre pas comme ça.
Effectivement, ça a été même un peu compliqué d'avoir l'autorisation de visiter l'une des usines qui existent à Dakar. Plusieurs ont même refusé de m'ouvrir leurs portes. Celle que j'ai visitée, Mesh Darling, avait peur que l'on dévoile trop les coulisses de son business. Impossible par exemple pour moi de prendre des photos ou des vidéos. Tous les propos aussi que j'ai enregistrés se faisaient sous le contrôle de la chargée de communication et je n'ai pas eu accès à l'intégralité de leur usine. Cela montre bien à quel point ce business est juteux et que la concurrence est vraiment rude.
Et alors dans les salons de coiffure également, on sent cette même rivalité, ce goût du secret ?
Alors dans les salons, c'est un peu différent. Effectivement, la compétition est là, car beaucoup se lancent dans le business des cheveux, donc il faut réussir à faire la différence. Pour attirer les clientes, Arène Rouma du salon Enera Beauty, que l'on entend dans le reportage, a choisi par exemple de lancer une promotion d'entretien des perruques pendant la période creuse, vers les mois de septembre à novembre, avant le rush des fêtes de fin d'année. Elle a décidé de mettre un prix abordable, entre 8 000 et 10 000 francs CFA, soit entre 12 et 15 euros par perruque, pour essayer l'idée de fidéliser les clientes et qu'elles reviennent chaque mois entretenir leurs mèches et pourquoi pas acheter une nouvelle perruque. L'autre espace pour essayer de faire la différence, c'est sur les réseaux sociaux. Chaque salon a sa page sur Instagram, Facebook ou TikTok et publie des petites vidéos avec leurs dernières créations.
Et justement, dans le reportage, les coiffeuses expliquent customiser en quelque sorte leurs perruques et faire des travaux sur mesure. Comment ça se passe exactement ?
Alors c'est assez technique effectivement, les salons reçoivent les cheveux naturels par mèche, elles peuvent avoir une longueur, un poids, une couleur, voire même parfois une matière différente. Ensuite ils reçoivent aussi l'avant de la perruque qui peut être une frange, une closure comme ils disent ou une frontale, c'est vraiment le jargon du métier. Et ce sont ensuite les employés des salons qui vont assembler ces différents éléments sur un bonnet qui se fixe sur la tête. Et à l'avant les mèches sont fixées, sont cousues sur une lace, c'est-à-dire un tissu en tulle qui va être teintée à la couleur de peau de la cliente afin que la perruque soit la plus discrète possible, qu'on ne la voit pas, qu'elle fasse le plus naturel possible. Et une fois confectionnée, la perruque peut aussi être teintée de différentes couleurs, tout dépend des goûts de la cliente. Et enfin, une fois posée sur la tête, la coiffeuse reprend la coupe de la perruque pour qu'elle aille à la morphologie et à la forme de la tête de la cliente.
Alors comme tout commerce qui rapporte, celui des perruques attire les convoitises, y compris celle des voleurs. Dans le sujet, vous dites que des malfrats ont été arrêtés en possession de perruques volées. Est-ce que cela arrive souvent, qu'il y ait des arrestations, voire des condamnations ?
Alors, de temps en temps, on entend effectivement des affaires qui sont reprises dans la presse et qui font le buzz. Mais il est très difficile d'avoir des chiffres, car ces voleurs sont perdus dans la masse des délits de vol plus communs, commis en bande, avec usage de violence parfois, ou avec un véhicule, ce qui permet de faciliter le vol et de favoriser leur fuite, car ils s'y mettent souvent à plusieurs à bord d'un scooter pour arracher les perruques des femmes dans la rue. Un avocat avec qui j'ai échangé, qui avait défendu l'un des complices des voleurs, me disait que c'était des délits assez récurrents au niveau du tribunal de Peking et Diawai, en banlieue populaire de Dakar, parce que si les vols se font un peu partout dans la capitale, les perruques volées sont souvent revendues à un prix beaucoup plus faible sur les marchés des quartiers plus populaires ou directement sur les réseaux sociaux.
Alors on l'a bien compris, ces perruques c'est beaucoup de travail, certaines coûtent très cher. On l'avait évoqué dans le reportage, on entend notamment l'une de vos interlocutrices, Aminata Thior, qui parle de tontines pour aider les femmes. Comment ça s'organise ?
Alors effectivement, Aminata parle de tontine, qui est un système collectif d'épargne assez fréquent sur le continent. D'habitude, des personnes cotisent chaque semaine à une caisse commune dont le montant est remis à tour de rôle à chacune d'elles. Et là, c'est un peu différent. Chaque femme cotise aussi chaque semaine, mais à la fin, ce n'est pas de l'argent qu'elles reçoivent, mais directement une perruque. C'est donc un moyen de pouvoir investir dans ces précieux accessoires onéreux sans avoir à demander de l'argent à leur mari, par exemple, ou à les faire crédit auprès d'un proche.
Merci, Théa Olivier, pour ce grand reportage. C'est la fin du supplément au grand reportage. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, 9h10, temps universel. Attention, il sera 11h10 à Paris. Changement d'heure oblige. Nous irons à Belgrade, en Serbie, il y a 25 ans, l'OTAN, pour tenter de conjurer les guerres des Balkans, bombardait. La plupart des cibles étaient militaires, mais pas toutes. Et cela rend le souvenir d'autant plus difficile à cicatriser. D'ailleurs, il ne guérit pas. 25 ans après, le passé reste présent. Dans les rues de Belgrade, on lit encore des graffitis anti-OTAN, anti-Europe, hostiles aux États-Unis. Et au sommaire aussi demain, des instants suspendus, le temps de la contemplation. Nous attendrons que la nuit tombe. Et cette interaction entre des particules chargées du vent solaire et la haute atmosphère, dit comme cela, ça manque de magie. Pourtant, le spectacle des aurores boréales, c'est de la poésie au naturel. Yellowknife, dans le nord canadien, veut en devenir la capitale. Les touristes se précipitent, mais un tel coût écologique, est-ce bien raisonnable ? Merci à Ludivine Amado pour la réalisation. Dans un instant, le journal.